Franche culture.
La curiosité sous toutes ses coutures.
11h, 11h30,
un jeudi sur deux,
sur Radio Campus Angers.
Bonjour à tous et bienvenue dans Franche culture, une nouvelle émission sur Radio Campus, au menu tous les 15 jours, l'actualité culturelle de l'Anjou et plus si affinité. Au micro, nous sommes 7, 7 chroniqueurs, à fouiller, fouiner, dégoter les perles culturelles de la région. Cette dont la seule motivation sera la curiosité. Autour de la table avec moi aujourd'hui, Bénédicte, Isabelle et Minouche. Et au programme, le retour des loups à Angers. Si, si, Bénédicte Justeau les a vus. C'est Noël à Fontevraud, Cécile Adrien et Emmanuel Morin nous disent tout sur le programme de l'abbaye royale de Fontevraud pour ce mois de décembre festif. Un coup de cœur littéraire avec Isabelle Godineau qui nous partage un conseil de lecture qui sera peut-être une idée de cadeau, écoutez-la bien. Et tout de suite, du théâtre, avec la compagnie du fauteuil rouge. Pascal Bonnel, comédien, est en studio avec nous. Et c'est vous, Minouche, qui prenez le micro.
Je reçois aujourd'hui Pascal Bonnel, de la compagnie du fauteuil rouge à Angers. Pascal Bonnel, bonjour.
Bonjour.
Parlez-nous tout d'abord du fauteuil rouge, c'est quoi ?
C'est quoi le fauteuil rouge ? C'est pas un objet, c'est pas un meuble, c'est une compagnie de théâtre qui a une dizaine d'années maintenant, qui a été fondée par Karine Renoir et qui joue essentiellement dans la région des Pays de Loire.
Vous êtes combien dans cette compagnie ?
Y a Karine qui est donc la fondatrice, plus moi et plus occasionnellement un ou deux comédiens et aussi un régisseur.
Et vous, vous y faites quoi dans la compagnie ? Parce que j'ai cru comprendre que vous étiez multicasquette.
Un peu, oui. Donc on fait un peu tout, c'est souvent le cas des petites compagnies, c'est-à-dire que... On joue, on met en scène, on écrit aussi. Pour la partie théâtre, on fait donc un peu toutes ces choses-là.
D'accord. Vous avez une formation particulière, vous, je crois, quand même.
Oui.
Parlez-moi.
Je suis ingénieur au départ, ingénieur arts et métiers. J'ai fait les arts à Angers. Mais ça, c'est une autre vie. Depuis, j'ai fait beaucoup d'autres choses, surtout du cinéma. Et donc, le théâtre, ça existe chez moi depuis une quinzaine d'années maintenant. Voilà.
D'accord. On va s'intéresser à l'actualité du fauteuil rouge, si vous voulez bien. Je crois que vous avez quelque chose de prévu pour le 31 décembre.
Exactement.
Alors, racontez-nous.
Voilà. Exactement, comme beaucoup de compagnies sur Angers, parce qu'il y a beaucoup de choses proposées ce jour-là. Nous aussi, on joue le 31 décembre au Bac à Bouchemaine, à la salle des Bacs à Bouchemaine. On joue une pièce qui s'appelle « Ménage à trois ». Une pièce qu'on a écrite... en 2019, et qu'on avait commencé à jouer en 2019, qu'on a arrêté avec le Covid, et qu'on reprend donc pour cette saison 2021-2022.
Alors c'est donc vous qui avez écrit la pièce ?
Oui.
Oui, c'est bien ça. C'est vous qui écrivez ou c'est une écriture en groupe ?
C'est une écriture en groupe. C'est vraiment un projet qu'on a amené en commun avec les deux autres comédiens, donc Karine et puis Bernard Vallet. On a écrit tous les trois ensemble cette pièce. C'est autour d'un déjeuner un jour, on a eu cette idée, puis on a travaillé et on a écrit ensemble vraiment tout le texte.
Alors pour moi, Ménage à trois, quand j'entends le titre, pour moi c'est typique de la pièce de boulevard.
Oui, mais c'est pas uniquement ça et même pas beaucoup, je trouve. C'est une comédie, ça c'est certain, mais c'est pas une pièce de boulevard. Le pitch de Ménage à trois, c'est donc évidemment un couple qui a il y a un troisième personnage qui n'est pas l'amant dans le placard, mais qui est un majordome, une sorte de domestique. Et le problème de ce couple, c'est que le domestique commence à faire n'importe quoi et devient ingérable. Et donc ça part dans des quiproquos, dans des situations assez grotesques, assez burlesques, mais ça raconte aussi autre chose cette pièce, ça raconte le problème du progrès, qu'est-ce qu'on fait du progrès et qu'est-ce qu'on fait de l'intelligence artificielle.
Ah donc, oui, vous allez jusque là.
Exactement, donc il y a du fond.
Ah, il y a du fond, oui, oui. Quand on a parlé de cette pièce, vous m'avez dit, ce qu'on défend c'est pas un hamburger, ça voulait dire quoi ?
Moi j'aime bien cette image parce qu'un burger ça a l'air appétissant, mais une fois dès qu'on l'a mangé, et plus rien, on a surtout mal au ventre, on a encore faim presque des fois. Alors que quand on fait un bon repas gastronomique, non seulement on apprécie le moment au moment où on le mange, mais on en profite aussi après, il reste des choses quoi. Nous c'est ce qu'on défend un peu, peut-être un peu avec une prétention, mais on défend un théâtre qui soit humoristique, amusant parce que les gens ont envie de ça, mais on défend l'idée qu'il y a aussi un. Quelque chose à raconter, quoi, autre chose en plus.
Oui, tout à fait. Mais vous avez raison. Ceci dit, je pense que dans nos auditeurs, il y a pas mal de gens qui adorent les hamburgers. Oui. Vous n'avez pas le droit de dénigrer le hamburger comme ça.
Non, mais j'en mange. Hein, ça, je ne suis pas non plus réfractaire au hamburger. Mais...
J'aimerais bien que vous nous parliez aussi maintenant de la deuxième étape, ce qui va se passer après la pièce.
Alors voilà, c'est que en fait cette pièce-là, donc comme je vous disais tout à l'heure, on a commencé en 2019, et puis comme on n'a pas pu la jouer en 2020 pour les raisons qu'on connaît, on en a fait un film. C'est-à-dire qu'on a fait, moi j'ai fait une adaptation puisque comme je vous disais, je suis scénariste et cinéaste, j'ai fait un scénario adapté avec des vrais décors et on a tourné le film l'été dernier. Donc on est en train de finir le monter et l'idée c'est de le présenter, le proposer aux Angevins, je pense premier trimestre 2022. Pour montrer ce travail et puis surtout avec l'idée de dire voilà, on a fait ce film avec très peu de moyens, si vous nous aidez, on a un autre projet dans les cartons qui est beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus qui a une portée plus forte et on voudrait le tourner, donc il faut nous aider, voilà, ce sera
d'accord,
un peu l'objectif qu'on s'est fixé.
On se fera un plaisir de vous recevoir alors au moment de la sortie du film,
j'espère bien. Hein,
pour essayer de vous soutenir et je voulais juste faire une petite aparté sur le Resto Théâtre parce que c'est un endroit où vous vous produisez souvent, j'aimerais bien qu'on mette un peu les phares sur eux pour les faire connaître.
Ah oui, non, mais c'est un lieu magique, le Resto Théâtre, parce que c'est un lieu où on mange. Et, d'abord, c'est un restaurant, mais c'est un lieu aussi qui est un théâtre. C'est-à-dire qu'il y a toujours deux parties. Il y a une partie restauration et une partie théâtre ensuite. Et nous, on s'y produit régulièrement en dîner-spectacle et également certains dimanches, à peu près un dimanche par mois.
D'accord. Ouais. Il se trouve où le Resto Théâtre à Angers ?
Il se trouve dans la Doutre, j'ai plus le nom de la rue.
Rue
Garnier, c'est ça, voilà, je trouve la rue Garnier, près de la Poste.
Voilà, donc voilà, de toute façon, on doit
là
voir.
Là où il y a les travaux du tramway actuellement, pas très loin de la place, voilà, dans ce coin-là. Quoi.
D'accord. Mais écoutez, on se retrouvera au mois de mars. En attendant, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le 31 décembre au Lac de Maine ?
Que les gens viennent, parce que vu le contexte actuel, on a l'impression que ça va être un peu plus compliqué que prévu. Mais voilà, nous, on a envie de s'amuser, on a envie de faire plaisir à notre public. Et ce qu'on peut se souhaiter, c'est de passer les meilleures fêtes possibles.
Eh bien voilà, alors écoutez, si vous êtes intéressés, je crois que vraiment ça en vaut la peine. Le 31 décembre, à la Bac de Bushmen, à 17h, 19h30 et 22h, donc vous avez le choix des séances, vous pouvez retrouver la compagnie du fauteuil rouge avec la pièce, ce sera, je vous redemande le nom.
Ménage à trois.
Merci Pierre Bonnel.
Pascal Bonnel.
Pascal Bonnel, je termine très mal.
Pierre, c'est mon père.
Pas si mal alors.
Pas mal.
Minouche, Pascal Bonnel, merci. Alors, un peu de musique avant de se donner une idée de sortie pour les vacances de Noël.
Right after it's been torn apart.
On est toujours sur Radio Campus dans l'émission Franche Culture et on est surtout en ce moment dans l'ambiance de Noël. Et comme tous les ans, l'abbaye royale de Fontevraud propose plein d'idées, d'expos, de concerts, de sorties. Cécile Edrien est allée pour nous à la pêche aux idées.
Noël à Fontevraud, ce sont des installations visuelles et sonores, des projections animées, des concerts, des œuvres exposées. Mais surtout, c'est une subtile fusion entre tradition et création. Tradition de Noël et de sa magie, tradition de ce lieu si riche spirituellement et historiquement, et création artistique contemporaine, audacieuse et bien vivante. Emmanuel Morin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur artistique de l'abbaye de Fontevraud. On a dévoilé là en quelques mots l'ADN de votre Noël à Fontevraud. Comment ça se passe? Tout d'abord, je crois que les artistes investissent Fontevraud et créent à et pour Fontevraud.
Noël à Fontevraud, c'est un peu une recette de grand-mère. Les artistes ne viennent pas juste pour Noël, ils viennent bien en amont. Ça veut dire que Noël à Fontevraud, on le travaille au printemps, pendant l'été. Je sais pas, je pourrais faire une comparaison. Un très bon vin cuit avec des goûts subtils, des petites choses qui se révèlent derrière, etc. C'est chaud, c'est goûteux. Et en fait, tout ça, c'est fait parce que ça existe, parce qu'en fait, ils viennent en résidence à Fontevraud. Ils vivent le monument. Le fait de vivre, d'être en autarcie dans le lieu, de le respirer, d'y dormir, ça donne justement un goût particulier. Il y a une sorte de macération artistique qui s'opère et qui crée justement un dialogue entre le patrimoine, cette perle de l'Anjou, et puis cette thématique de Noël.
Les jeunes visiteurs ne sont pas oubliés et ils repartent avec un petit livre, un livre pop-up. Je voudrais que vous m'en parliez.
Le Noël que les gens vont vivre ici, c'était un peu comme si on arrive le soir de Noël à la maison et tout d'un coup, on va avoir une belle table de dresser, on va avoir de belles lumières, on va avoir des cadeaux au pied du sapin. Eh bien, l'idée, c'était de se dire que quand le public arrive à Fontevraud, le premier contact, le premier objet de Noël à Fontevraud, c'est un cadeau qu'on fait aux enfants. Et ce cadeau, c'est un livre. Mathilde Arnaud, qui est la 5e lauréate, qui est une artiste marseillaise absolument incroyable, a revisité l'abbaye dans son architecture, dans ce qu'elle est, pour créer non pas un livre linéaire, on tourne les pages les unes après les autres, mais en fait, on tourne les pages qui sont des pages d'architecture.
C'est très poétique, avec des hirondelles.
C'est un livre tout bleu et blanc. C'est un livre qui se déploie, qui s'articule et qui ouvre des fenêtres, des petites portes, un peu comme un calendrier de l'Avent, mais en fait, c'est sous forme de livre, et on y retrouve toutes les formes de Fontevraud.
Et c'est plus compliqué, parce qu'on se demande dans quel sens on va le tourner, on le retourne dans tous les sens, on l'inverse, je pense que les enfants s'amuseront beaucoup. Et on commence, puisque vous parlez de la magie de Noël et des lumières, en arrivant devant l'abbatiale, par une projection animée sur la façade.
On a eu la chance d'accueillir deux Italiennes.
Deux Francesca, il faut le dire.
Et qui ont réalisé une animation, et là, l'idée, c'était qu'il y a cette façade, quand on arrive, et cette façade, elle va vous raconter quelque chose comme si les murs transpiraient une histoire de Noël. Et c'est dans ce cadre-là que nos deux Italiennes, les deux Francesca, ont imaginé un très beau projet qui s'anime tous les soirs à partir de 17h30 sur la façade. Et c'est absolument sublime.
Alors, on ne pourra pas citer toutes les œuvres, je voudrais qu'on fasse une petite sélection. On va quand même parler du cœur de l'abbatiale avec une exposition qui a un nom double. Pour moi, puisque c'est dans le cœur de l'abbatiale, qui s'appelle « La voix du Père » et c'est de la peinture.
On vient de parler de Mathilde et des deux Francesca, qui sont deux jeunes artistes. Et cette installation dans le cœur, je l'ai confiée à Carmelo Zagari. Carmelo Zagari est un artiste confirmé, quelqu'un qui a vraiment une carrière internationale, qui est dans les grandes collections des musées d'art contemporain en France, notamment celle du musée de Lyon. C'était un pari absolument incroyable de demander à un artiste aussi confirmé que lui d'investir le cœur. Faire de la peinture dans un monument qui n'a pas de mur, puisqu'en fait ce ne sont que des colonnes, des vitraux, des arcatures. C'était assez fou de voir comment Carmelo Zagari a répondu à cette commande de créer une nativité pour Fontevraud. Il y a de la peinture suspendue partout dans le cœur. Vraiment, c'est assez impressionnant. Il a peint des toiles immenses de plus de 5 mètres sur 4 mètres de haut. Et tout ça est suspendu dans le cœur. Et cet ensemble de peintures vous guide. Ce sont des peintures noires et blanches immenses qui représentent l'humanité, notre humanité, le monde et l'étoile. Elles aboutissent comme un entonnoir dans le déambulatoire de l'église à une nativité. Et cette nativité, elle est en couleur.
Alors Carmelo Zagari est bien dans vos thèmes puisque, en fait, il parle d'héritage et de transmission. Or, Fontevraud, c'est vraiment un héritage fabuleux.
C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai que le travail de Carmelo Zagari, ce peintre, il est très marqué par son histoire. C'est un enfant de Firmini, à côté de Saint-Étienne. Son papa était mineur de fond, émigré calabrais. Il perd sa maman très tôt. Et donc, il y a vraiment cette idée de comment tu reconstitues une famille, comment lui, en tant qu'artiste, il va recréer autour de lui tout un monde, toute une famille qui a disparu et qui était loin de lui, dans ce lieu qui est aujourd'hui une merveille d'architecture, mais qui n'a plus de, il y a plus de décoration, en fait. Justement, lui, Carmelo Zagari, il recrée de l'humanité. Et ça, c'est juste incroyable.
Il y a aussi une table de Noël, ça c'est incontournable, une installation lumineuse, mais je voudrais qu'on parle, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, parce que c'est une œuvre qui m'a vraiment frappée. Et Dieu sait que je ne suis pas fan d'habitude de ce genre d'œuvre. C'est la création musicale Expanding Tones de Mika Oki que j'ai trouvée absolument saisissante, qui enveloppe.
Eh ben, je suis content que vous ayez été saisi par l'œuvre de Mika Oki. Effectivement, Noël, c'est du patrimoine, c'est de la tradition, la crèche, la nativité, c'est des cadeaux, c'est une table de Noël, c'est tout ça. Mais il y a aussi une musique.
Des cloches.
On a des cloches, etc. Et tout d'un coup, Mika, elle s'est investie, elle a bien entendu, elle a bien écouté. Je voulais que les gens puissent se déambuler dans le cloître, mais que cette création sonore qu'elle va créer dans le cloître soit une émanation de ce qu'est Fontevraud. Et aujourd'hui, Fontevraud, grâce à ce nouveau projet de cloche, puisqu'on recrée une sonnerie de 6 cloches à Fontevraud. Et donc l'idée, c'était que cette artiste qui travaille de la matière numérique, elle prenne du vivant, de la voix humaine et des cloches propres de Fontevraud pour recréer une sorte de chant d'oiseau, mais fait à partir des cloches et de la voix humaine. Et elle donne une sorte de résonance dans le cloître qui est juste, qui est juste folle, quoi.
Je suis d'accord avec vous, on a envie de rester dans le cloître. C'est assez saisissant, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, c'est très réussi. Il y a aussi un programme musical. Est-ce qu'on peut juste l'évoquer très rapidement?
Oui, bien sûr. Un prochain concert, ça va être l'ensemble Calmus, le samedi 18 décembre à 18h. Alors là, c'est incroyable, ils sont 5. Et à 5 voix, juste à 5, dans l'église abbatiale, ils donnent une puissance vocale. Il y a un souffle et on voit que l'église est faite pour la voix. Hein. C'est vraiment incroyable. Et on accueillera le dimanche 19 le Thalys Scholar. Donc là aussi, ça va être un moment assez fort.
Oui, et deux autres dates, hein, le 8 janvier et le 9 janvier. Donc moi, j'invite tous les auditeurs pour avoir vraiment le détail du programme à se rendre sur le site de Fontevraud. Je dois dire que tous les témoignages des artistes qui sont intervenus à Fontevraud prouvent qu'ils ont été fascinés par le lieu, son architecture, mais aussi tout ce que ça dégage. Et effectivement, ce que ça dégage de magique, de spirituel. Et effectivement, ça se ressent hein, dans ce parcours que vous proposez. Emmanuel Morin.
C'est magique. Dans le principe, c'est que le monument est ouvert jusqu'à 20h le soir. Et donc, vivre la magie de Noël la nuit à Fontevraud, c'est juste extraordinaire.
J'allais y venir. D'ailleurs, moi, je recommande aux auditeurs de faire le parcours. Non, mais vous avez bien fait, vous. Nous allons dans le même sens. De faire la visite un petit peu tard, parce qu'il y a tout ce qui est visuel, lumineux, qui sera plus agréable, mais avant, si les auditeurs veulent arriver plus tôt, il y a évidemment le musée d'art moderne à ne pas rater.
Exactement.
Emmanuel Morin, merci beaucoup et bon Noël à Fontevraud.
Merci beaucoup, à très vite. Merci.
C'était Cécile Adrien et Emmanuel Morin au téléphone, vous l'aurez entendu. Tous les renseignements sont sur le site de Fontevraud pour organiser votre sortie.
Tournez la page avec Isabelle.
Le livre du jour, Isabelle, c'est l'un des romans de la rentrée, publié aux éditions de Minuit, La fille qu'on appelle, de Tanguy Viel.
Oui Marie, et on peut y voir plusieurs niveaux de lecture. C'est d'abord l'histoire de la jolie Laura Lecor, 20 ans, ancienne mannequin de lingerie, qui revient après quelques années dans sa ville natale et qui dépose une plainte au commissariat contre le maire d'une ville de la côte bretonne, Quentin Le Barce, qui a abusé d'elle et qui vient d'être nommé ministre. C'est aussi l'histoire de Max Lecor, le père de Laura et chauffeur du maire, ancien boxeur fatigué qui fait son grand retour sur le ring et qui demande à son employeur de recevoir sa fille en quête d'un logement. Mais c'est surtout le récit toujours tristement d'actualité de l'emprise sexuelle exercée par un puissant sur les plus faibles. Sous emprise, Laura a accepté l'emploi et le logement proposé par le maire, la mettant dès lors à la disposition de Quentin Le Barce, qui passe assouvir ses pulsions sans la moindre considération pour la jeune femme.
Alors on comprend très très vite à la lecture du livre que Laura, elle ne s'est pas rebellée. Et l'auteur Tanguy Viel, il s'empare ici, lui aussi, de la question du consentement.
Tout à fait, la fille qu'on appelle, c'est un jeu de mots sur la « call girl », dans une traduction littérale, presque poétique. Et si Laura accepte l'emprise sexuelle, c'est parce qu'en fait, elle n'a pas le choix, si elle veut trouver un logement et un travail. à travers l'audition de Laura par les policiers et l'arrogance du maire, Tanguy Viel dessine ainsi les contours de la notion si complexe et si floue du consentement.
Alors, le milieu décrit, c'est une ville de province, au bord de l'océan, et pas un océan bleu, mais un océan gris, opaque, comme dit l'auteur, avec ses puissants, à qui tout est dû, sans aucune remise en question, ni de ceux qui abusent, ni de ceux qui se laissent abuser.
Oui, exactement. L'ordre social tel qu'il est organisé montre des horizons sociaux variés. Tout est trouble dans les relations que les personnages établissent entre eux. Et Tanguy Viel dépeint bien l'entremêlement des différents pouvoirs politiques, économiques, médiatiques et judiciaires qui conduisent à un final détonnant. Je voudrais ajouter que la violence psychologique est très présente dans ce roman, tout aussi destructrice que la violence physique.
Donc Isabelle, pour ce roman, qu'est-ce qu'on peut dire du style ? Il y a 173 pages.
Ma Marie, vous répondez un petit peu à la question en citant le nombre de pages. C'est un roman réaliste, presque cinématographique, au style ramassé, direct, efficace, sans artifice, sans un mot de trop, taillé à la serpe. Mais tout est dit sur la psychologie des personnages, la description des lieux et la narration des événements. C'est un style qui se caractérise par sa précision et son économie.
Alors, est-ce que Tanguy Viel, c'est son premier roman ?
Non. Il en a déjà écrit une quinzaine et obtenu 2 prix. Il écrit toujours sur des thèmes récurrents, que ce soit les liens familiaux, les inégalités de classe et la difficulté de prendre l'ascenseur social. On retrouve tout ça dans La fille qu'on appelle.
Alors moi, je vous le dis, il faut aller jusqu'au bout du roman. Il faut lire ses dernières phrases. L'auteur s'est basé sur un fait divers, tristement banal, qui montre le chemin encore à parcourir pour une meilleure justice dans la lutte contre les violences faites aux femmes.
Oui, Marie, et aussi pour que certains hommes changent radicalement d'attitude envers les femmes. Hein. Vous l'aurez compris, c'est un coup de cœur. La fille qu'on appelle de Tanguy Viel est parue aux éditions de Minuit.
Le billet d'humeur de Bénédicte.
Depuis quelques semaines, on évoque le retour des loups dans les villes. On en a aperçu en Vendée, dans le nord de la France et même à Paris.
On en compte 600 en France, ils sont arrivés en 1992 par l'Italie, et depuis, ils poursuivent leur conquête du territoire. Mais on les rencontrait déjà avant 1870 dans les campagnes angevines et dans la banlieue d'Angers. À tel point que l'animal a impacté le patois local angevin. Avoir vu le loup, c'est perdre sa virginité. Faire le chien et le loup, faire preuve de duplicité.
Alors c'est un peu différent des expressions classiques, celles qu'on connaît très bien, qu'on n'a plus besoin d'expliquer, entre chien et loup, être connu comme le loup blanc, avoir une fin de loup, tomber dans la gueule du loup. Bénédicte, racontez-nous quelques anecdotes qu'on a retrouvées dans des récits d'époque.
Pendant la grande épidémie de peste en 1626, des bandes de loups déterrent les corps du cimetière du Sanita à la Panthière, et ça, c'est près du lac de Maine actuel. En 1693, plus de 70 personnes sont tuées dans la région de Bourgueil et autant sont blessées. On n'ose plus aller garder les bêtes au pré, justement. Et en 1714, un loup enragé, venu du Baugeois, entre à Angers, mord une centaine de personnes et un grand nombre de bêtes avant d'être tué par un paysan de Frémur.
Alors on peut dire aujourd'hui que les loups sont de retour. Ils sont de retour à Angers, place Giffard-Langevin. Leur présence sur cette place n'est pas le fait du hasard, c'est la rue de Frémur qui démarre là.
Voilà, toujours la rue de Frémur. Ils sont noirs, le corps lisse, musculeux et doux à la fois, le cou tendu, les museaux reniflent. Ils semblent humer l'air frais et saluer les voyageurs à la descente de la passerelle de la gare. Oui, les loups sont bien de retour à Angers, mais ceux-là n'ont rien d'agressif, pas un croc dehors. Une petite meute de 4 loups, totalement pacifiques, espiègles aussi, et qui invitent à la contemplation. Ils ont l'air de tenir une sorte de conseil. Est-ce qu'ils resteront là à attendre le voyageur ou est-ce qu'ils fuiront le centre-ville où leur présence est bien incongrue ?
Alors c'est un lieu idéal pour ces loups, une jolie place que la ville a récemment réaménagée, végétalisée et piétonnisée.
Ces loups, ils sont place Giffard-Langevin, donc on le disait, en bronze. Et quand on interroge l'auteur, l'artiste plutôt, sur sa création, il dit que ce site se prêtait très bien à l'instauration d'un dialogue entre l'érable qui est juste au-dessus et les animaux sauvages qui marchent en pleine rue. Ça permet également d'interroger la place de l'homme dans le monde et de faire écho au voyage à deux pas de la passerelle qui mène à la gare. C'est donc l'artiste clermontois Roland Cognet qui est l'auteur de ces loups sculptés, un artiste attaché à révéler le lien intime entre l'homme et son environnement naturel. Il aime sculpter les animaux et les arbres. Roland Cognet a passé son enfance dans l'Allier, au voisinage de l'immense forêt de chênes de Troncet. Il est issu d'une famille où le travail du bois fut pratiqué par plusieurs générations. Pas étonnant donc, si la nature est un sujet qui l'intéresse et l'inspire tant.
Alors Bénédicte, vous m'avez confié que l'artiste qui a sculpté ces loups, il vouait aussi l'admiration à un autre sculpteur animalier, François Pompon.
Alors Pompon, oui, c'est un artiste très très connu du grand public pour ses sculptures animalières, aux surfaces polies et aux formes ultra épurées. Vous savez, ces sculptures blanches qu'on voit dans les boutiques des musées ou même chez Maison du Monde. Et Pompon, il a un parcours absolument incroyable. Il est né dans une famille d'ébénistes. À 15 ans, il est apprenti tailleur de marbre pour une entreprise funéraire. Et puis plus tard, il travaille pour Auguste Rodin et même pour Camille Claudel. Alors en admirant le travail de François Pompon, on découvre un refus de l'expression par le creux, ce qui implique une absence totale d'ombre. La sculpture se doit d'être lisse, éclatante, blanche comme le marbre qu'il avait coutume de tailler après s'être exprimé sur le plâtre. Et les loups de Roland Cognet, ils sont assez lisses, on a envie de les caresser.
Alors c'est l'art contemporain qui prend l'air sur la place Giffard-Langevin pour dialoguer avec le paysage urbain, avec son érable et les loups de Roland Cognet. C'est la fin de cette nouvelle émission de Franche Culture. 30 minutes de culture, tous azimuts en Anjou. Merci à vous, auditeurs de Radio Campus, pour votre écoute. Retrouvez-nous pour la rediffusion le mardi à 17h. Et surtout, si vous avez aimé notre émission, n'hésitez pas à partager le podcast et nous liker sur les réseaux sociaux.
Une émission à retrouver sur le www.radiocampusangers.com.